Rendez-vous, c'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous.
Des appels au génocide.
Ils sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain.
Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé.
Loïc, bonjour. Loïc, bonjour.
J'ai juste des bonnes nouvelles pour toi. Oui?
Oui, vas-y,
je t'entends. Est-ce que tu m'entends, Benoît?
Oui, là, je t'entends.
Bon, j'ai des bonnes nouvelles pour toi. Le prix d'essence va baisser. Parce que ce qui s'est passé hier soir entre Israël et l'Iran, c'est presque rien. Il y a eu quelques explosions, on ne sait pas trop où, ça a l'air d'être dans le voisinage de casernes militaires, quelque chose comme ça. Rien d'important. Donc, puisque les événements géopolitiques influencent tant que ça les vendeurs d'essence, ben c'est clair que demain matin, même maintenant, les prix devraient se mettre à baisser. Hein.
On en déduit que... Oh oui, mais c'est une déduction. Oui. On va voir si ta déduction est bonne. Pas sûr, parce que...
Non.
Tu calcules pas la variété.
C'est une déduction ironique. Hein?
Oui, j'ai vu ça. Ouais.
C'est une déduction très ironique, parce qu'ils vont trouver évidemment d'autres... Il y a toujours des prétextes pour garder le prix de l'essence. Tu sais, c'est drôle, hein? Ça monte très, très vite, mais ça prend beaucoup de temps à descendre.
C'est bizarre, hein? Toujours pareil.
On va dire, ah oui, mais c'est parce qu'on a signé des contrats le mauvais jour... Toutes sortes de bonnes raisons pour garder le prix élevé. Mais en tout cas, finalement, bref, moi, je veux quand même te parler.
Finalement, Israël a suivi les recommandations, en tout cas les demandes de la communauté internationale.
Oui, oui, ils ont fait attention. Puis même l'Iran dit, bon, on ne fera rien d'autre. Les sources de renseignement de l'Iran disent, très bien, ça ne vaut pas la peine qu'on réplique à ça. Donc, pour le moment, on n'est pas dans une spirale de guerre, et c'est vraiment très bien parce que on n'est pas assez proche. Mais ça n'a pas empêché les Iraniens de dire, attention, hein, si vous attaquez nos installations nucléaires, nous, on va aussi attaquer les vôtres. On sait où est votre armement nucléaire, etc. Et ce sera œil pour œil, dent pour dent. On fera exactement la même chose. Ce qui est une façon aussi de prévenir Israël, de dire, faites très attention à ce que vous voulez faire. Alors, pour le moment, les Israéliens, évidemment...
Mais qui dit à l'Iran de faire attention? Parce que l'Iran, c'est des malades mentaux, là. L'Iran, c'est des tortionnaires, c'est des criminels, c'est des tueurs.
Oui. C'est surtout des fondamentalistes religieux. Ils viennent de relancer à travers tout le pays... toute la campagne pour que les femmes portent le voile. Je voyais des vidéos d'une pauvre femme qui avait fait une crise cardiaque quand elle avait vu... Parce que les femmes résistent, parce que les gens résistent.
Ils se mettent à plusieurs.
Ça, les gens ne savent peut-être pas assez ici.
Ils se mettent à plusieurs sur ces femmes-là.
Ils font toutes sortes de choses.
C'est clair. Hein?
Oui, c'est-à-dire la police des mœurs fait ça, mais les gens autour, la foule résiste, puis leur dit non, ne les attaquez pas, etc. Il y a plein de vidéos qui sortent là-dessus. Et les jeunes en particulier courent derrière les mollahs et donnent un coup sur leur chapeau pour le faire tomber. Il y a énormément d'irrespect. Ils se filment en faisant ça. Mais tu sais, ils encourent la prison et même la torture et éventuellement, ils peuvent mourir. Mais c'est te montrer combien la population déteste ce régime, combien les gens ont compris aussi que ce régime les volait complètement parce que ils vivent dans l'opulence, ces mollahs en Iran, c'est bien clair, alors que la population en arrache. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de mécontentement en Iran. Et je dirais que ça explique peut-être en partie aussi la décision du gouvernement iranien qui sait que sa population n'est pas vraiment derrière lui et qui ne veut pas courir le risque non plus d'envoyer tous les soldats au front parce que qu'est-ce qui va rester ensuite pour défendre le gouvernement contre la population? Une grande partie de l'activité de l'armée consiste à protéger le gouvernement contre la population.
Okay.
J'exagère un peu quand je te dis ça, là, mais ça va mal pour l'Iran en ce moment.
Parlons de l'État palestinien, ça ne passera pas à l'ONU finalement.
Ça ne passera pas parce que les États-Unis ont opposé leur veto. Et ils ont mis leur veto et puis ça... je t'avoue qu'on s'y attendait pas tant que ça, parce que la dernière fois que les États-Unis ont mis un veto à la création d'un État, c'est en 1976, avec la reconnaissance officielle du Vietnam. Or, pour qu'un État soit accepté à l'ONU, il faut qu'au Conseil de sécurité, il y ait 8 États sur 15 qui acceptent, et il faut pas qu'il y ait de veto des 5 membres permanents. Les États-Unis ont dit non, on veut pas ça. Il y a eu 2 abstentions, la Suisse et le Royaume-Uni, qui sont pas des membres permanents, mais tous les autres ont dit oui, aucun problème. Et si tu veux, ici, il y a une forme d'hypocrisie très forte des États-Unis. Parce que oui, les États-Unis vont dire « Ah, on est d'accord avec la création d'un État palestinien. Tout le monde est d'accord avec la création d'un État palestinien depuis la fondation d'Israël. » Mais le problème, c'est que les États-Unis disent « Oui, mais on ne veut pas que ça vienne de l'extérieur. On veut que ce soit les Palestiniens et les Israéliens qui s'entendent, qu'Israël dise oui. » Ben, Israël ne va pas dire oui. Pas avec la composition politique actuelle de la société en Israël, avec le gouvernement proportionnel qu'ils ont en ce moment. C'est impossible qu'ils disent oui dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. On ne voit pas comment ils peuvent dire oui. Donc, ça revient à dire, nous, on ne veut pas reconnaître un État palestinien. C'est ça que les États-Unis viennent de dire dans les faits, parce qu'Israël ne le fera pas. Cela étant dit, la Palestine est quand même... fait partie des États non reconnus observateurs à l'ONU. Et donc, ça lui aurait donné un statut beaucoup plus grand. Mais il y a quand même 137 pays à travers le monde qui reconnaissent la Palestine comme un État. Et donc, si tu veux, l'idée fait son chemin et ça avance tranquillement. Puis, peut-être qu'à un moment donné, les États-Unis vont être acculés.
J'étais étonné de lire la moitié des villes de la Chine qui s'enfoncent dans le sol.
C'est étonnant. Oui, moi aussi, j'ai étonné de voir ça. On a fait une enquête avec des satellites, etc. Et on s'est rendu compte qu'il y avait... beaucoup de villes en Chine et des grandes villes qui s'enfonçaient dans le sol et elles s'enfoncent de 10 mm par année. Ça peut paraître pas beaucoup, 10 mm par an, mais en ce moment, il y a 6% de la superficie de la Chine qui est en deçà du niveau de la mer. Et si ça continue comme ça, dans 100 ans, on va être rendu à 26% de la superficie de la Chine qui va être en dessous du niveau de la mer. C'est beaucoup, c'est toutes les récoltes, c'est pas juste les villes. Alors, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que le niveau de l'eau monte en raison des changements climatiques, mais aussi pour deux autres raisons, parce que les villes sont de plus en plus lourdes. On a construit de plus en plus d'immeubles et le sol s'affaisse sous le poids des immeubles. Et la deuxième raison qui fait en sorte aussi que ça s'enfonce, c'est que on a tiré trop d'eau des nappes phréatiques. Et donc, ça aussi, ça accélère l'enfoncement des villes dans le sol. Et c'est pas des petites villes. Là, on parle de Pékin, Tianjin, Kunming, qui est au Yunnan, Nanning, Fuzhou, qui est sur le bord de la mer, Shanghai. Donc, ce sont vraiment... Il y a 5 régions, 5 zones, grandes zones, où le sol s'affaisse. Et la seule solution pour le moment... c'est de construire des digues autour des grandes villes qui sont près de l'eau. Et la Hollande l'a déjà fait et on peut le faire, effectivement. L'autre chose qu'il faut faire, c'est aller chercher l'eau beaucoup plus loin, à l'extérieur des villes, cesser de pomper les nappes phréatiques. Et donc, les Chinois vont s'atteler à ça.
Tu te souviens du film Waterworld avec Kevin Costner dans les années 80? On s'en va vers ça. Là. L'eau va monter et il va nous rester quelques parcelles de terre ici et là.
Je suis pas tellement sûr qu'on s'en inverse, Benoît.
En tout cas, je pense pas qu'on le voit de notre vie.
Chalet. Écoute, je te suggère de t'acheter un chalet dans l'Himalaya. Peut-être que ça va aider.
Ils vont taxer le gain en capital d'un chalet, là,
non,
si je
le
vends.
Non, mais pas en Inde.
Peut-être pas en Inde. C'est loin, vous allez passer la fin de semaine.
Mais ça va valoir tellement d'argent si le reste de la terre est inondé.
C'est vrai.
Tu vas rentrer dans ton argent.
Ah oui, on se fera pas assassiner, on se fera pas égorger pour avoir le chalet.
Faut que tu regardes. On t'achète quelques chiens, quelques mitraillettes, puis tout va très bien aller.
Non, mais il y a un paquet de références. Waterworld, Walking Dead, tu sais, il y a un paquet de références comme ça, là, voir ce qui nous attend pour l'avenir. Bonne fin de semaine, Loïc. On se reparle lundi.
Bonne semaine là-dessus. Salut.